20 mars 1727, il y a 290 ans cette année, la légende populaire, bien aidée par le dessinateur Gottlieb en France, aura retenu de lui que c'est la chute d'une pomme sur le coin de la tête qui lui a apporté l'illumination. L'histoire des sciences retiendra pour sa part un apport scientifique qui marque la transition entre une science du Moyen-Âge et la science moderne, une théorie de la gravitation que seul Einstein finira par compléter et remettre en cause, un de ces esprits disruptifs qui redéfinissent la méthode scientifique en proposant une conception mathématique de la physique notamment, ou en pressentant la nature ondulatoire de la lumière. Et Isaac Newton éclaira les sciences, c'est l'histoire des sciences qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour conter cette histoire newtonienne, nos deux narrateurs sont aujourd'hui Françoise Balibar. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Je vous en prie, moi aussi, je suis contente.
Vous êtes physicienne, historienne des sciences. On peut citer dans votre abondante bibliographie, notamment Einstein, Newton, Poincaré, une histoire de principe que vous avez coécrit avec Raffaella Tonchelli, aux éditions Belin. Et nous sommes en duplex depuis Los Angeles. Et oui, c'est gros moyen aujourd'hui la méthode scientifique, depuis les studios de la NPR avec Marco Pansa. Bonjour à vous.
Bonjour
à tous. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et Techniques, historien et philosophe des mathématiques à l'Université Paris-Sorbonne. Et on vous doit notamment le Newton aux éditions Les Belles Lettres en 2003, mais également Newton et les origines de l'analyse aux éditions Albert Blanchard. Vous savez dorénavant que, comme chaque jour, vous pouvez suivre en parallèle l'édition sur votre fil Twitter en vous abonnant au compte de l'émission @laméthodefc. Alors pour commencer, eh bien voilà, ce n'est pas la première fois que nous retraçons l'histoire d'un grand scientifique dans l'émission au cours d'une heure. Et je vais vous poser une question qui est toujours un peu la question qui se pose pour ces grands esprits qui viennent à un moment donné bouleverser l'histoire des sciences. Est-ce que vous êtes d'accord l'un et l'autre pour dire que l'apport scientifique d'Isaac Newton marque une charnière dans l'histoire des sciences, une charnière qui pourrait être par exemple celle entre le Moyen-Âge et la science moderne?
Françoise Balibar. Je serais d'accord à condition d'élargir la charnière, c'est-à-dire que Newton fait partie de ce qu'on a appelé la révolution scientifique, qui quand même a duré à peu près un siècle. Donc il est au cœur de tout ça, mais il n'est pas l'initiateur.
Ce n'est peut-être même pas la seule charnière, Marco Pansa.
Absolument, je suis tout à fait d'accord à ce que Françoise vient de dire. Et j'ajouterais aussi que l'image, le mot révolution peut-être rend mal l'idée. Il y a certainement une transformation profonde, mais cette transformation a des origines qui sont à retrouver aussi dans la pensée précédente, et dans la pensée d'Aristote, de Platon, et ça va continuer longtemps l'histoire. C'est pas, il n'y a pas un moment dans lequel tout change à l'improvis et tout change, devient différent. Les choses ne sont pas de cette manière.
Newton lui-même n'aimait pas beaucoup le mot révolution, il préférait la restauration du savoir des anciens.
Oui,
absolument.
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et d'ailleurs, le mot révolution, il a été introduit dans les années 60, c'était la grande école et la grande période des Coiré, etc. Mais aujourd'hui, plus personne ne pourrait parler de révolution scientifique, ça n'a pas de sens.
Si on peut dire que les grandes avancées, en tout cas en physique particulièrement, correspondent à des grandes unifications, on peut penser à l'électromagnétisme de Maxwell ou à d'autres, Newton, lui, fait en quelque sorte l'une des premières unifications qui est celle du mouvement des objets terrestres et des objets célestes. Vous approuvez cette vision-là, Françoise Balibar?
Partiellement, c'est-à-dire que c'est vrai, mais par ailleurs, je pense qu'il n'est pas le premier à l'avoir fait. Mmh. Et par exemple, Galilée, pour ne parler que de lui, mais qui justement a établi que les lois qui valent pour le ciel valent aussi pour la terre, ce qui était quand même correspond à un grand effort d'imagination, parce que quand on est sur la terre, on imagine qu'il n'y a pas autre chose.
Marco Pansa.
Absolument, tout à fait juste ce que François Balibar vient de dire. J'ajouterais d'ailleurs que Newton aurait espéré réaliser une unification plus grande de celle-ci. Il aurait espéré unifier les lois du mouvement sur en Terre, les lois du mouvement des planètes, la loi de la lumière, les lois de la lumière et beaucoup d'autres choses, et malheureusement il n'y arrive pas. Ça, c'est un des grands regrets de sa vie. Il essaye à la fin de l'optique de le faire de manière avec des conjectures, ce qu'il n'aimait pas en général, parce qu'il aimait plutôt des choses prouvées, et parce que là il voulait faire quelque chose qu'il n'arrive pas vraiment à faire et qui sera fait partiellement beaucoup plus tard.
Et d'ailleurs, à propos des questions, des queries qui sont à la fin de l'optique de Newton, c'est quand même admirable de penser que quelqu'un comme Newton a laissé à la postérité des questions aussi ouvertes de nos jours, où il faut être positif et donc tout fermer. Ça ne pourrait pas marcher.
Alors, reprécisons un peu, hein, comme toujours, comme le soulignait Marco Panza à l'instant, un grand scientifique ne sort pas de nulle part, c'est pas un diable qui sort d'une boîte, il s'inscrit dans un continuum de pensée à un moment de l'accumulation des savoirs. Est-ce que vous pourriez l'un et l'autre replacer justement un peu Newton dans cette histoire des sciences, ses prédécesseurs, les gens qui vont nourrir sa pensée et l'amener à émettre ses différentes théories, Françoise Balibar?
Oui, mais dans cette période qui va de 1600 à 1700, grosso modo, il y a eu un bouleversement général de la pensée en Europe occidentale, d'une certaine façon entre Florence et Cambridge, qui a remis, qui a apporté un nouveau point de vue sur ce que l'on pensait, pour le critiquer d'une part, et surtout en introduisant des idées nouvelles. Alors d'où viennent ces idées nouvelles? Ça, on peut discuter à perte de vue. Beaucoup ont été reprises de l'Antiquité, et beaucoup étaient déjà plus ou moins latentes dans ce qui s'était fait avant 1600.
Marco Panza, Newton lui-même, dont on verra qu'il n'avait a priori, de ce qu'en disaient ses contemporains, pas un caractère très facile, c'est pas une personne très agréable, c'est pas quelqu'un de particulièrement modeste non plus, disait tout de même que s'il voyait aussi loin, c'est parce qu'il était juché sur les épaules de géants, en évoquant évidemment Copernic, Galilée, mais aussi des gens moins connus du grand public dans l'histoire des sciences, Tycho Brahe. Vous pouvez nous remettre un peu tout ça en perspective?
Oui, ben certes, Newton vient d'un mouvement qui est là avant lui. Certainement, Galilée est un personnage fondamental dans cet héritage. D'ailleurs, si on compte avec les calendriers anglais, qui à l'époque n'était pas le calendrier sur le continent, Newton est né le jour de Noël de l'année de la mort de Galilée. Souvent, les historiens des sciences prennent ça comme une. En fait, en Angleterre, c'était pas 42, mais ça, c'était notre. C'était pas le jour de Noël. C'était encore 42, mais c'était pas le jour de Noël. Peu importe. Sur le continent, c'était déjà 43. Peu importe. Donc, Galilée, c'est certainement.
On a une petite rupture de faisceau avec Los Angeles, ça se sent malheureusement, je pense que ça va revenir dans quelques instants. Revenons ici. Ça y est, vous êtes à nouveau là.
Bon, parfait. Voilà. Et l'autre personnage qui n'a pas été cité, qui a été un rôle fondamental dans la formation de la pensée de Newton, et aussi un de ses ennemis scientifiques, a été Descartes. Descartes a été l'auteur que Newton lit dans sa jeunesse et l'auteur que Newton a toujours présent face de lui. C'est le titre de Principia, c'est une manière de revenir au titre de Principia Philosophia de Descartes. Donc c'est probablement les grands penseurs auxquels Newton doit le plus, autant positivement que négativement, parce qu'il le critiquera aussi pendant toute sa carrière, toute sa vie.
Et puis Newton lui-même, ça c'est pour ses prédécesseurs, prédécesseurs. Newton n'est pas non plus totalement isolé, puisqu'il y a d'autres grands noms hein, qui sont associés aux siens, qui vont travailler à ses côtés, qui vont nourrir son œuvre, parfois avec un certain nombre de polémiques. On pense à John Locke, évidemment, à Edmond Halley, mais aussi à Robert Hooke, la fameuse polémique autour de la gravitation. Il est entouré, c'est-à-dire qu'il y a...
Il y a à Cambridge et à Londres, à ce moment-là, un milieu culturel, c'est pour parler moderne, tout à fait extraordinaire. Et donc, Newton vit au cœur du monde scientifique ou du monde intellectuel. Cela dit, c'est un solitaire. Il est d'un caractère très irascible et par ailleurs, il est assez fragile psychologiquement. Donc, il lui arrive souvent de se... cloîtré dans sa chambre à Cambridge. Mais il n'est pas vraiment solitaire. Il entretient il écrit avec mm-hmm. tous ces gens-là. C'est quand même pas là. Alors, par ailleurs, il y a, je pense, un personnage qu'il faudrait peut-être introduire encore, c'est Kepler. Mm-hmm. Parce que, généralement, on parle d'abord à Copernic, à juste titre. Copernic a quand même introduit des idées tout à fait nouvelles. Mais on dit généralement que ce qui s'est passé, c'est qu'on croyait que la Terre, que le Soleil tournait autour de la Terre, et ce qu'a montré Copernic, c'était la Terre qui tournait au Soleil. Montrer, c'est encore avec des guillemets. Mmh. Bon. Mais en fait, je crois, comme on l'a fait assez souvent remarquer, et Michel Serres en particulier l'a bien fait remarquer, que c'est avec Kepler, il y a plus que ça. Il y a un décentrement, c'est-à-dire que on passe quand même de l'idée dans laquelle tout tourne autour d'un point, que ça soit autour du Soleil ou autour de la Terre, finalement tout est centré, alors que avec Kepler, ses orbites, etc., qui ne sont plus des cercles, le monde est décentré. Et ça, je pense que c'est extrêmement déstabilisant pour la pensée occidentale.
Mmh. Ça vaudra avec d'autres choses aussi sa vie à Giordano Bruno, brûlé à Rome, qui était aussi l'un des premiers à plaider pour cet univers infini et décentré.
Pascal.
Et Pascal, évidemment. Et je renvoie nos auditeurs à l'émission que nous avions consacrée ici même un jeudi il y a quelques temps à la vie et aux travaux de Pascal. Il faut préciser aussi quelque chose d'important, c'est que tous ces jeunes gens brillants, Halley, Newton, ne sont pas non plus totalement des manants. Ce sont des gens bien nés, ce sont des gens riches, propriétaires terriens. Newton deviendra d'ailleurs officier d'État et directeur de la Monnaie. On est dans un milieu proche de l'aristocratie, un milieu confortable, Marco Pansa.
Absolument. Mais je voulais préciser une chose mm-hmm. Sur la question précédente. Le fait que Newton était entouré est vrai à partir d'une certaine époque de sa vie. Pendant toute une grande période qui culmine avec la fin de l'écriture de Principia, Newton travaille de manière très isolée. Il cherche surtout à travailler de manière isolée. Les contacts qu'il a avec la Royal Society sont des contacts qui ont lieu à l'époque de la publication de ses idées autour de la formation des couleurs, mais il cherche de les couper tout de suite. Et il est rappelé à ses relations justement par Hooke, qui devient secrétaire de la Royal Society, et cherche donc de remettre Newton dans les circuits. Et Newton résiste jusqu'au camp. L'histoire est sympathique. Hooke avait présenté une conjecture d'après laquelle on pouvait expliquer les mouvements des planètes avec mm-hmm. l'hypothèse d'une loi d'attraction inversement proportionnelle au carré de la distance. Mm-hmm. Et donc ça, c'est une idée qui circulait dans l'époque. Et il y avait eu une discussion à la Royal Society entre Hooke, Vrain, l'architecte de St. Paul Cathedral, et Halley à propos de la possibilité de démontrer cette conjecture. Mm. Et ils avaient cherché à trouver la manière de la démontrer, mais ils n'avaient pas réussi. Halley avait même, qui était un homme riche, avait même établi un prix pour quelqu'un qui avait pu réussir à la démontrer, mais personne n'avait fait. Et à un certain moment, Halley, il ne se rassigne pas, il décide d'aller voir ce scientifique isolé à Cambridge, il va le revoir à Cambridge, et lui pose la question.
Newton, donc.
Et ça, Newton, il est passionné par cette question, il commence à travailler. D'ailleurs, il se rappelle d'avoir déjà démontré la conjecture de Hooke partiellement dans une correspondance correspondance privée avec lui-même qui n'avait pas été rendue publique. Et à partir de cette époque, on est 1684, il travaille pendant 3 ans de manière acharnée pour écrire les Principia qui sont publiés 3 ans plus tard. Et là, quand les Principia sortent, Newton devient un homme public, il commence une carrière politique. Alors là, vraiment, devient un homme entouré de beaucoup de personnes. Mais pas avant.
Alors, on a grillé plein d'étapes parce qu'on va, on va arriver, hein, parce qu'effectivement, il faut préciser que Newton écrit ce De Principia tard dans sa carrière. Hein, il a déjà plus de 40 ans. Un dernier mot général, et puis on va reprendre le fil de son histoire depuis le début, mais quelque chose d'important, puisqu'on parle toujours de disruption pour les grands savants. Si Newton apporte quand même quelque chose d'essentiel, c'est la mathématisation de la physique. C'est-à-dire que d'un seul coup, il montre que la physique n'est plus juste l'observation, mais que tout peut être traduit en langage mathématique. Et ça, pour le coup, il y a vraiment un avant et un après, Françoise Balibard.
Oui, encore une fois, cet avant et cet après n'est pas une césure nette, car l'idée de la mathématisation de la nature, c'est quand même une idée qui circulait déjà, et dont Galilée avait explicité dans ses écrits. Alors, ce qui se passe, c'est que Newton, lui, réalise cette mathématisation. Alors, d'ailleurs, c'est très étonnant parce que quand on lit les Principia, on voit que les démonstrations qui sont utilisées, qui sont produites par Newton, sont totalement incompréhensibles pour quelqu'un qui de nos générations. Ce sont démonstrations géométriques extrêmement compliquées, extrêmement subtiles, sophistiquées et quelquefois un peu tirées par les cheveux. Pour autant, d'ailleurs, que quelqu'un comme moi puisse juger de ce qui est tiré par les cheveux, de ce qui ne l'est pas dans ce genre de choses. Et donc, il est même suggéré par certains historiens des sciences que c'est afin qu'on ne le comprenne pas qu'il donne des démonstrations aussi compliquées. Je ne prendrai pas parti là-dessus, mais le fait est que la mathématisation, ça s'est pas fait du jour au lendemain.
Oui, mais c'est lui en tout cas qui, dans le De Principia, le formalise en quelque sorte, Marco Pansa, on pourrait dire ça comme ça. Ah, je crois qu'on a perdu Marco Pansa à nouveau. C'est les aléas de la liaison avec l'autre bout du monde. Bon alors, Françoise Balibard, est-ce qu'on peut dire que c'est que Newton formalise cette mathématisation dans le De Principia?
Oui, on peut le dire, mais je pense que l'idée que le grand livre de la nature, c'est quand même Galilée. Donc, on peut aussi beaucoup épiloguer sur le fait que le grand livre de la nature est écrit en caractères géométriques, etc., et qu'il faut connaître la langue pour pouvoir lire la nature. Alors, on peut d'une part faire remarquer que c'est une métaphore, le livre de la nature, qui ne date pas de Galilée, et que les caractères géométriques... Newton... produit des démonstrations géométriques à un moment où il aurait pu probablement produire des démonstrations plus algébriques. Et de fait, ce qui a servi à la mathématisation de la nature pour ce qui est de la physique et jusqu'à un certain point, c'est l'algèbre.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Il est 16h20 bientôt déjà sur France Culture et nous parlons de l'histoire d'Isaac Newton en compagnie de Françoise Balibard, physicienne historienne des sciences, et avec Marco Pansa que nous espérons retrouver dans quelques minutes puisqu'il est en duplex depuis Los Angeles et que nous avons perdu la liaison, mais elle ne devrait pas tarder à revenir. On va donc dérouler le fil de la vie d'Isaac Newton, même si Marco Pansa nous a déjà tracé à grand trait son histoire et l'histoire de la publication des Principia qui est donc donc son grand œuvre. Peut-être, on le disait hein, tout à l'heure, Newton avait un caractère absolument détestable. Pierre Nalin écrit, il est méfiant, vindicatif, rancunier, inquiet, susceptible, irritable, il ne supporte pas la critique, il est misanthrope, imbu de sa personne et sûr de lui.
C'est qui vraiment, écrit ça?
C'est Pierre Nalin.
Oui.
Est-ce que c'est vraiment un sale bonhomme
c'est
à ce moment-là?
C'est comme ça que les contemporains l'ont vu, oui. Oui, mais c'est aussi quelqu'un, je le disais tout à l'heure, de psychologiquement fragile. Il a quand même connu plusieurs arrêts, breakdown, comme disent les anglo-saxons, en fait des dépressions nerveuses, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Et surtout, alors il y a eu un épisode très violent, en 93, je crois, pendant 2 ans, il était ce qu'on appelle fou, c'est-à-dire que violent même. Et c'est quelque chose d'assez touchant. Personnellement, effectivement, le personnage de Newton, comme ça, tel qu'on le décrit, me semble insupportable, parce que c'est pas parce qu'on est Newton qu'il faut envoyer balader les autres. Quand on voit le premier portrait de Newton à 19 ans, il a un air triste, mais c'est quelque chose, c'est un mélancolique profond et qui a réussi à se tenir à la fois en étant Newton, en étant enfermé dans une vie de moine à Cambridge, etc. Alors qu'il avait et il a connu plein d'aventures complètement réprimées.
Nous avons retrouvé Marco Pansa. Rebonjour à vous. Nous avons récupéré
bonjour,
les liaisons.
Bonjour.
Ce sont les aléas des liaisons longue distance.
J'ai cru qu'il y avait un ordre présidentiel qui empêchait les correspondances. La communication en France, aux États-Unis.
Ne mettons pas. Newton était lui-même, il était lui-même très croyant. On va en parler d'ailleurs dans un instant. On était en train de retracer un peu son caractère, comme vous venez de l'entendre avec Françoise Balibar. On dit, même si effectivement le De Principia est publié en 1687, hein, donc Newton a 45 ans, on dit néanmoins que l'essentiel de son œuvre, de son travail, a été accompli avant ses 25 ans. C'est-à-dire qu'il a des intuitions très tôt qu'il ne va pas tout de suite formaliser. C'est ça, Marco Pansa?
Oui et non. Certainement, une grande partie de son travail mathématique, en particulier ce que on appelle aujourd'hui analyse infinitésimale, pour lui.
C'est compliqué. Nous avons encore perdu la liaison malheureusement.
Là ah, non,
ça
non,
y est,
non,
vous êtes là, c'est bon.
Non,
ouais,
non,
vous
non,
êtes
non,
là,
non,
c'est
non,
bon.
Non, non, je suis là.
Alors donc
son calcul la théorie des fluxions dans cette ligne fondamentale est complétée en soi.
La liaison est manifestement difficile avec Los Angeles. Non, ça, nous ne l'avons plus. Alors, Françoise Bell.
On vous attend.
Ah, ça y est, nous vous avons retrouvé. Bon, alors, on va continuer avec vous, Marco Pansa. On va essayer.
Oui, j'espère. Moi, j'essaie de faire le mieux que je peux.
Ah, mais vous faites très bien, vous le faites très bien.
Alors, j'étais en train de dire que la théorie des fluxions est complétée. Donc, la version newtonienne du calcul infinitésimal est complétée en 66. Donc, très, très, très jeune. Après, Newton apportera quelques améliorations, mais l'essentiel est là. La théorie des couleurs est pensée aussi quelques années un petit peu plus tard, mais disons autour de 67, 68, 69, les idées fondamentales sont là. L'idée d'une force de gravitation unique pour expliquer les phénomènes terrestres et le phénomène céleste est déjà là dans sa jeunesse, ça on a des notes. Mm-hmm. Par contre, on ne peut pas dire que la construction de Principia est là dans sa jeunesse, ça serait totalement faux.
Mm. Mais les grandes théories, c'est-à-dire la théorie optique, le calcul infinitésimal et la gravitation, sont là très tôt.
Ben, pas la théorie, l'idée de la gravitation est là très tôt. Oui, l'idée est là très tôt, mais après, l'idée, vous savez, beaucoup de gens ont des idées. Et donc, moi, j'ai beaucoup d'idées, j'ai 2000 idées par jour. Le problème, après, c'est de les réaliser, de faire les mathématiques, et là, c'est beaucoup plus difficile.
Comment est-ce qu'on explique le fait qu'il n'ait pas cherché à publier plus tôt, à coucher toutes ces théories-là par écrit, Françoise Balibar? Est-ce qu'on a une explication
parce que,
à ça?
Justement, il avait conscience du fait que c'était une idée, mais qu'il fallait la présenter d'une façon qui soit qui puisse convaincre. Et ça, il en était loin du compte. Par ailleurs, l'idée de publier, c'est une idée moderne. Publisher Page, c'est pas c'est lui. Il est une, de ce point de vue-là, il n'avait pas franchement, il n'avait pas ce souci en tête. Mais il avait quand même la rivalité avec d'autres qui étaient prêts de trouver la même chose que lui. La Mitz, par exemple, leur controverse est fameuse.
On va parler évidemment de cette controverse avec les Mitz autour du calcul. Redire peut-être, puisque bon, Marco Pansa l'a décrit tout à l'heure, un peu les raisons pour lesquelles d'un seul coup il se lance dans la rédaction des Principia. Est-ce qu'on peut définir cet ouvrage, donc dont le titre complet est Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, comme le premier ouvrage de physique théorique de l'histoire des sciences, Marco Pansa?
Je ne sais pas. Le premier, pour un historien des sciences, c'est toujours un terme difficile à utiliser. Et disons que oui, mais avec beaucoup de guillemets autour des premiers. En plus, vous voyez, là, j'étais perdu au moment dans lequel François Bellibard disait que l'idée de mathématisation de la nature était déjà là avant Newton. Moi, j'aurais ajouté que déjà chez Aristote, il y a l'idée d'utiliser des mathématiques pour décrire des phénomènes naturels. Donc, le fait que les mathématiques peuvent être utilisées pour décrire des phénomènes naturels n'est pas une idée absolument nouvelle. Le problème est si on peut avoir une théorie générale qui peut être utilisé pour décrire des phénomènes complexes, non seulement l'intervention locale. C'est en quelque sorte, les mathématiques peuvent constituer les objets mêmes de cette recherche. Vous voyez, une chose est dire qu'on peut utiliser les mathématiques pour décrire un phénomène et penser que l'objet de cette recherche est le phénomène naturel lui-même. Une chose est construire un modèle dans lequel on peut représenter les phénomènes naturels et travailler à l'intérieur de ce modèle mathématique pour démontrer et résoudre des questions. Et les Principia, dans ce sens, sont vraiment quelque chose de nouveau. Parce que les Principia ont trois livres. Mm-hmm. Et dans les deux premiers livres, il y a une théorie essentiellement mathématique, c'est la construction du modèle. C'est seulement dans le troisième livre que Newton applique cette théorie et cette idée des forces, cette théorie des forces d'attraction centrale à l'étude des phénomènes célestes. Et ça, c'est vraiment quelque chose, peut-être pas complètement nouveau, mais qui est fait d'une manière profondément nouvelle par rapport au passé.
Parlons un peu des Principia, justement ces trois volumes, comment est-ce qu'ils se structurent, quels sont leurs contenus en résumé, Françoise Balibar?
Le premier volume est essentiellement consacré à poser les axiomes à partir desquels il va développer sa mécanique, comprise comme la géométrie est comprise comme un cas particulier de la mécanique, ce qui est toujours très étonnant. Bon, mais alors ce sont les fameux axiomes sur l'espace, le temps, bon, la première, la deuxième et troisième loi, etc. Avec chaque fois des commentaires assez longs et qui déjà dénotent une profonde compréhension de ce qu'il y a par derrière. Enfin, je veux dire, on les lit et c'est en les lisant et relisant qu'on s'aperçoit que derrière, il y a énormément de choses. Bon. Le deuxième continue, dans le deuxième livre, il est plus d'application. Et le troisième, elle s'appelle le système du monde.
Et c'est dans ce système du monde
qu'est introduite la gravitation.
Corpora omnia in se mutuo gravitant, atamen gravitatem corporibus essentialem esse minime affirmo, gravitas recendo a terra diminuitur.
Voilà. Et oui. Je ne comprends pas votre latin, on me l'a appris avec un autre accent.
Ah, bah c'est l'accent qu'on m'a appris quand j'ai suivi mes
cours.
Nous
ne sommes pas le même âge.
Marco Pansa, c'est les bases. Réexpliquer pourquoi cette théorie de la gravitation newtonienne va d'un seul coup infuser toute la physique jusqu'à ce qu'Einstein propose sa relativité générale. En quoi elle change la conception physique du monde de l'époque?
Pour différentes raisons. Une, c'est justement que c'est l'application d'une théorie mathématique plus générale. Et donc, c'est en quelque sorte, Newton a cette idée extraordinaire de penser la théorie du cosmos comme une application d'une théorie plus générale. Le cosmos devient un cas particulier d'un système de différents corps qui s'attirent les uns vers les autres avec des forces centrales. Et c'est plutôt cette idée qu'on peut appliquer ailleurs qui va dominer. Et donc, ce n'est pas seulement la cosmologie newtonienne qui va être fondamentale pour la physique. Au contraire, c'est cette idée qu'on peut travailler avec des forces centrales pour étudier et expliquer différents phénomènes. Et le grand héritage de Newton est plutôt...
Ah, le grand héritage de Newton est plutôt... Normalement, on récupère Marco Pansa dans quelques secondes.
Ben, moi,
voilà,
je vous
ça y est, c'est bon, là. Vous êtes là. Donc, le grand héritage de Newton est plutôt
celle-ci. C'est-à-dire, l'idée, c'est que ce modèle, système des corps s'attirant les uns vers les autres par des forces centrales, c'est un modèle qu'on commence à essayer à appliquer partout, non seulement à la cosmologie, mais aussi à d'autres phénomènes. Alors, quelquefois, on y arrive, quelquefois, on n'y arrive pas, quelquefois, on se rencontre, comme dans le cas de la diffusion de la chaleur avec Fourier, que c'est mieux aller ailleurs, quelquefois, ça marche. Et donc, il y a une unification qui est surtout une unification mathématique. Et ça, c'est le grand apport. Et après, naturellement, il y a la fascination d'une théorie du cosmos. Donc, il y a une cosmologie qui, pour la première fois, tourne ronde, pour ainsi dire, même si maintenant les orbites sont elliptiques. Et ça, c'est extraordinaire. Ça réalise une fascination extraordinaire. Mais ce n'est pas tellement ceci. C'est que maintenant, on a une théorie générale qu'on peut appliquer pour expliquer différents phénomènes de nature très variée et très différente entre eux.
Oui, non seulement je pense que ça c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits, parce que l'idée que l'unification se fasse via les mathématiques, par les mathématiques, c'est quand même neuf ça. Même l'idée d'unification n'est pas chez Galilée par exemple. Donc, mais chez Newton, ça sert aussi à expliquer la cohésion des corps. Il essaie de trouver l'équivalent de la gravitation universelle dans d'autres situations. Et avec l'objectif que ce soit des forces centrale, comme on dit, c'est-à-dire dirigée vers un centre, et avec, en 1 sur R2, on verra bien si ça va, 1 sur R2 ou pas, etc.
Il faut repréciser, puisque Marco Pansa le disait tout à l'heure, mais il faut le préciser que c'est Halley, hein, Edmond Halley de la fameuse comète, qui va vers Newton pour essayer de lui demander justement de théoriser ce trajet de la comète, ce trajet elliptique qui, normalement, selon les lois de la physique, aurait dû être rectiligne, puisque quand on a comme je dans le vide, il n'y a pas de raison qu'il tourne, il devrait aller tout droit. Et bien voilà, c'est ce moment où on entend ce petit bip de loin et où on va retrouver Marco Pansa. Voilà.
C'est ce qui pousse Newton à revenir sur ce sujet, à travailler, mais il finance même l'ouvrage de Newton, parce que la Royal Society disait ne plus avoir d'argent pour financer cet ouvrage, parce qu'il avait dépensé tout l'argent pour un traité de théologie, et donc n'avait plus d'argent, et Halley décide de financer de sa poche l'ouvrage de Newton. Et d'ailleurs, en poche aussi les
Et ça fait une émission avec un peu de suspense. Hein. Il faut attendre le retour de Marco Pansa, où il faut pousser pour son
électromagnétique
à compléter.
Inventés là où on pense que les lois de Newton ne valent plus. Mais en fait, c'est pas vrai. De toute façon, l'unification, elle s'est toujours faite. D'abord, avec Maxwell unifiant
l'électricité, le magnétisme,
la lumière et l'électricité, etc. Et puis ensuite, Einstein, trouvant le moyen d'unifier mathématiquement en 1905, partiellement d'ailleurs, la mécanique et l'électromagnétisme. Finalement,
le 1915, la relativité générale. Un mot aussi pour dire que... Ah mais parce qu'il faut tout de même raconter l'histoire de la pomme. Pourquoi elle vient d'où, cette histoire de la pomme? Parce qu'elle est évidemment pas dans les Principia.
Non, mais elle est dans le... Elle me semble, vous me corrigerez si c'est pas vrai, elle est racontée par le biographe officiel de Newton, un ami de Newton. Il y avait eu une épidémie de peste. Et l'université de Cambridge avait été fermée pour éviter la contagion. Donc, chacun était rentré dans ses pénates. Et Newton chez sa mère. Alors chez sa mère, c'était très compliqué parce que sa mère s'était remariée et tout ça, le jeune Newton ne prenait pas la chose aussi bien qu'on aurait pu le souhaiter. Alors il était assis, il était allongé, dit-on, sous un pommier et une pomme est tombée puisque chez sa mère il n'était pas riche, hein. C'est simplement que ils avaient du terrain, mais pas énormément, hein. C'était rien à voir avec l'aristocratie, quand même. Et donc, il voit tomber une pomme, et il a l'intuition, que, elle est attirée par quelque chose, et que, l'explication de la gravitation est dans ces forces d'attraction. Mais de là à faire la théorie de la gravitation, il y a un pas.
Et puis surtout, il lit aussi, et puis c'est le premier à le décrire, il lit cette gravitation à une autre force qui est la force centrifuge de la Terre, et donc c'est lui qui va décrire la pesanteur, en fait.
Ah ben oui, c'est la pesanteur. La pesanteur, c'est le fait que les pommes tombent, et la gravitation, c'est l'explication de la pesanteur.
Et puis c'est lui qui va théoriser que dans le sens inverse, si on envoie et qu'on projette un objet dans le ciel à vitesse très 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 rapide, il ne va pas aller tout droit, mais il va finir par se mettre en orbite autour de la Terre.
Oui.
Scientifique Nicolas Martin.
Et Purcell, contemporain de Newton, pour sa sonate en fa mineur, allegro pour violon et basse, à 16h36, puisque nous parlons d'Isaac Newton tout au long de cette heure, que vous pouvez nous suivre, évidemment, comme chaque jour en direct, hein, sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Nous parlons d'Isaac Newton avec Françoise Balibar, physicienne, historienne des sciences ici à Paris, et par intermittence, en duplex depuis Los Angeles et les studios de la NPR, mais malheureusement, c'est ni de notre faute, ni de la leur, ce sont des simple rupture de faisceau, comme on en connaît parfois, avec Marco Panza, qui est directeur de recherche à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques, qui est revenu avec nous.
Rebonjour.
Rebonjour. On évoquait pendant votre absence l'histoire de la pomme. Vous avez évité ce topos de l'histoire de la pomme avec Newton. Et ce qu'on a oublié de préciser, c'est que si Isaac Newton ressort cette histoire de la pomme, c'est parce que c'est à cause de la controverse avec Robert Hooke en disant qu'il avait envisagé la gravitation très jeune, dès les années 65-66 et pas en 87, à l'époque de la publication des Principia. L'autre apport de taille de Newton, l'un des autres apports, puisqu'on va parler aussi des mathématiques infinitésimales, mais l'un des apports à la physique moderne, concerne l'optique. Bonjour Céline Lozen.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Alors vous êtes un peu notre Marty McFly des sciences, hein, vous retournez dans le temps pour recréer les expériences du passé et vous êtes allé refaire l'expérience de Newton.
Et oui, j'ai fait un saut de 3 siècles pour revivre l'Experimentum Crucis, autrement dit, l'expérience critique de Newton, critique car elle a permis une découverte majeure sur la théorie des couleurs. Newton l'a décrit précisément dans une lettre qui est datée du 6 février 1672. Alors j'étais voir Claude Gutmann, il est professeur de physique émérite de Paris Diderot. Il s'est servi de ce manuscrit pour comprendre la démarche de cette trouvaille qui justement va bouleverser les connaissances sur la lumière.
Newton s'intéressait à ce qu'on appelait le phénomène des couleurs. Il se place dans une salle chez lui, il fait un trou dans le mur, il y a le soleil, il met un prisme et il regarde ce qui se passe sur le mur. Alors la première chose qu'il voit, la tache du soleil toute bête sur le mur, il ne fait rien, puis il met un prisme et cette tache qui auparavant était circulaire devient à la fois oblongue et présente effectivement les couleurs auxquelles il s'attendait, c'est-à-dire du rouge au violet comme nous savons maintenant. À ce moment-là, c'est là que Newton commence à réfléchir là-dessus.
Juste, on précise qu'à l'époque, on ne pensait pas que la lumière blanche, celle du soleil, contenait toutes les couleurs.
Non, alors justement, le problème que se pose Newton tout de suite, c'est puisque cette lumière blanche, il n'ose pas dire encore le mot décomposé, donne des lumières de différentes couleurs, des rayons, il parle de rayons. Bon, mais l'idée, c'est est-ce que c'est le prisme, le verre ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se produirait dans le verre qui ferait que de la lumière arrive et le verre fabrique des lumières de différentes couleurs, de différents rayons ? Ou alors, est-ce que c'est une propriété de la lumière ? C'est que la lumière a déjà tous ses rayons et le prisme simplement les décompose. Et c'est ça l'idée remarquable qu'il a. Il est bien évident qu'il a cette intuition et il va, à partir de cette intuition, faire une deuxième expérience qu'on va faire tout à l'heure et qui va effectivement, ce qu'il appellera l'expérience cruciale, experimentum crucis en latin, et effectivement, c'est la théorie des couleurs. Il va montrer que la lumière est formée, comme il dit, de différents rayons qui sont différemment réfrangibles, que
donc c'est ça que l'idée des couleurs. Qui se dévient d'une manière différente.
Voilà, qui sont déviés de manière, avec des angles différents selon la couleur.
Et qui donne un spectre et qui donne diffus.
Alors, il ne sait pas encore que le spectre est continu. Lui, il parle de différentes couleurs. Alors, il en compte un certain nombre. Il va même composer ses rayons de couleurs. Mais enfin, il n'empêche que Newton, c'est un pas immense dans la décomposition de la lumière blanche.
Alors, on va se replonger dans les conditions de l'expérience de Newton, telle qu'il l'a faite donc en
1666.
Alors éteignons la lumière et entrons dans l'expérience.
Peut-être éteindre la lumière. Alors le dispositif est très simple. Il y a d'une part une lampe qui est cachée un peu derrière cet écran. Une lampe avec deux petits trous derrière.
Donc de la lumière blanche.
C'est de la lumière blanche. C'est une lampe qui a un spectre qui n'est pas très très loin de celui du soleil. Ce petit trou représente le trou dans la chambre de Newton, dans le haut de sa pièce. Et en face de... Alors vous voyez, sur un écran que vous voyez ici, vous voyez à peu près l'image que ça donne. C'est une image à peu près ronde. C'est l'image, effectivement, qu'avait Newton du soleil avant d'avoir mis son prisme. Je mets maintenant un prisme devant ceci. Voilà. Attendez, voilà, vous voyez sur ce petit écran, voilà à peu près ce que voyait Newton, c'est-à-dire une tache oblongue où il y a une décomposition de couleurs. Alors, c'est plus circulaire, c'est oblong, et il y a une distribution de couleurs, du rouge qui va jusqu'au jaune. Il y a un peu, le centre est un peu blanc, c'est normal.
Donc qu'est-ce qu'il se dit Newton à ce moment-là quand il observe cette tache oblongue?
Alors justement,
ce
qu'il se dit, c'est d'abord, je vais prendre un autre prisme et je vais le mettre dans le sens inverse, vous voyez. Alors, vous voyez ce qu'il voit, et bien c'est quand même assez intéressant. Parce que vous voyez, j'ai placé un prisme qui est identique au précédent, mais je l'ai mis dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'effet est le même, mais inversé. Or, on retrouve la tache exactement qu'on avait vue avant, la tache blanche et circulaire. C'est-à-dire que l'effet est réversible. Alors, je trouvais que l'effet est réversible. Alors, déjà, ça lui donne un peu une idée, puisque l'effet est réversible. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, il observe sa tache oblongue, et alors là, c'est là que devient l'expérimentum crucis. Il met un petit trou à la suite par le prisme qui permet sur l'écran, vous voyez, de sélectionner des lumières. Vous voyez ?
Donc on peut sélectionner le bleu, là,
le
par
bleu,
exemple.
Le bleu, sélectionner le rouge. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Et c'est là que c'est très important. Il va placer un prisme devant le bleu. Bon. Là, on ne fait pas de mesures, mais en plus, Newton était un homme qui faisait des mesures. Et il s'aperçoit que la déviation du bleu qu'il observe là est la même dans le second prisme que dans le premier prisme, pour les mêmes incidences. Bon, ça c'est fantastique, parce que effectivement, après il va faire ça pour toutes les lumières. Newton, à ce moment-là, je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument merveilleux, c'est qu'il dit qu'à la suite de cette expérience, il faisait du polissage de lentilles, qu'il s'arrête de polir les lentilles, parce que les lentilles, eh ben, elles ont une aberration chromatique. Et il dit, je voudrais faire un appareil qui soit un appareil par réflexion, qui n'a plus l'aberration chromatique. Et il invente le télescope de Newton, et il le fait. C'est un télescope très simple, mais qui lui permet de voir, et sans aberration chromatique du tout, de voir les deux satellites de Jupiter. Bon. Galilée les avait vus, mais difficilement avec des réfracteurs. Et lui, il le voit avec... c'est assez extraordinaire, vous voyez. Et après, Ensuite, à partir de tout ça, il se met à faire une espèce de théorie des couleurs, qui est la première théorie des couleurs.
Et à l'époque, on est donc à deuxième moitié du XVIIe, et comment est accueillie cette nouvelle théorie sur la base de ces expériences?
Eh bien là, je vais vous dire, je pense qu'elle a été bien accueillie, mais bon, il y avait un ennemi, c'était Huygens, mais c'est ça, parce que Huygens, il avait une théorie ondulatoire, qui était d'ailleurs vraie. En fait, c'était à la fois ondulatoire et corpusculaire.
Newton pensait que la lumière était composée de corpuscules.
Oui, mais bon, la lumière, en fait, est à la fois corpusculaire et ondulatoire.
Vous avez tous les deux raisons.
Voilà, exactement.
Voilà le reportage de Céline Lausanne pour refaire l'expérience de Newton. Une réaction l'un et l'autre. On voit, hein, comme on l'entend à la toute fin du reportage, que Newton n'avait pas vu la nature ondulatoire de la lumière, mais il en était pas loin tout de même, Marco Pansa.
Oui, oui, absolument. Il avait plutôt, c'est pas clair. Et ça, c'est un point important à préciser. Et Newton pense avoir démontré, donc c'est bien les mots que j'utilise et qu'il utilisait, que la lumière blanche, la lumière du soleil, est composée par des lumières de différentes couleurs et que donc peut être décomposée par un prisme, comme il a été expliqué. Mais il n'avançait aucune conjecture sur la nature de la lumière. Et beaucoup de discussions après la réception de cette théorie portent là-dessus, parce que les autres lui demandent de dire « Oui, mais d'accord, mais la lumière, comment elle est faite ?» Et Newton répond en disant « Je ne le sais pas. » C'est-à-dire, je peux avoir des conjectures, j'ai des idées, mais là, je n'ai pas de preuves sur la nature de la lumière. J'ai des preuves sur le fait que la lumière blanche se décompose et que donc les couleurs sont contenues dans la lumière blanche. Donc, il faut bien faire la différence entre les deux choses. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas compris par ses contemporaines. Et c'est une raison pour laquelle Newton se désespère, parce qu'il cherche d'expliquer que lui, il n'a pas une théorie définitive sur la composition nature de la lumière. Et ses interlocuteurs continuent à le presser là-dessus jusqu'à quand Newton arrête de communiquer avec la Royal Society, parce qu'il ne veut pas continuer cette discussion qui, d'après lui, n'a pas de fondement. Lui pense avoir démontré quelque chose, et c'est la seule chose qu'il pense avoir démontré et qu'il veut affirmer.
Et c'est d'ailleurs étonnant parce que longtemps, on a dit et on a cru que la conception qu'avait Newton de la lumière était une conception corpusculaire, c'est-à-dire des corpuscules qui traversent l'espace. Il le dit comme une hypothèse, comme une supposition ou comme quelque chose qui peut correspondre à la nature de la lumière telle qu'on l'expérimente. Mais comme par ailleurs, il avait aussi dans la tête ces idées que ce n'est pas que des corpuscules. C'est ça qu'on a coupé. Résultat, c'est que quand Fresnel, 50 ou 60 ans plus tard, a mis en évidence des interférences, c'est-à-dire qui a tout de suite été interprété comme la preuve de la nature ondulatoire de la lumière sur le modèle de la théorie que l'on avait du son ou d'une vague, donc en anglais, wave, c'est à la fois vague et onde, c'est apparu comme quelque chose de tout à fait nouveau. Or, en fait, et puis par la suite, avec la théorie quantique, on s'est aperçu que la lumière n'était ni onde ni particule. Bon, mais c'est déjà dans Newton, dans la tête de Newton, si on peut dire.
J'aimerais qu'on comprenne un peu le temps de parler d'une autre de ces révolutions newtoniennes, même si, encore une fois, le terme révolution n'est pas le terme le plus approprié, parce que c'est celle qui a donné lieu à la fameuse controverse avec Leibniz, c'est celle autour du calcul infinitésimal. Newton, on peut le dire, si je résume un peu à grands traits, Marco Pansa, Newton aide les mathématiques à appréhender l'infini.
Oui, on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. On peut dire comme ça, oui. Même si mon idée, c'est
Ah, le suspense, le retour du suspense. Mais là, je sens que là, ça va revenir dans pas longtemps.
Mais là, voilà. Je vous entends.
C'est bon, allez-y, continuez.
Mais c'est l'infini, vous savez, l'infini, c'est une chose compliquée. Donc. Je disais que le rôle de l'infini dans la théorie infinitésimale de Newton, paradoxalement, n'est pas si important, au moins par rapport à ma lecture. Là, il y a des controverses parmi les historiens des mathématiques sur ce sujet. L'idée fondamentale de Newton est qu'on peut penser les objets géométriques comme décrits par un mouvement, et ce mouvement peut varier et à une vitesse ponctuelle. Et donc, il faut étudier et chercher des manières qui peuvent utiliser des méthodes infinitaires, mais pour trouver, pour déterminer ces vitesse ponctuelle qui a en même temps une intensité et une direction, donc la direction de la vitesse ponctuelle et la tangente, et donc on peut appliquer cette théorie à l'étude des courbes, à la découverte de leur tangente, de leur centre osculateur, etc. Mais l'idée fondamentale est là, ce n'est pas l'idée de l'infiniment petit, c'est l'idée de la ponctualité de la vitesse et de l'accélération, je pense. Mais non, ça serait un peu compliqué d'entrer dans les détails, mais je pense que ça, c'est le point essentiel. L'idée, c'est que les grandeurs géométriques sont décrites par la théorie des fluxions, sont décrites par un mouvement, par des fluons qui fluent, et donc ont une vitesse qui est variable, et sa vitesse variable sont les fluxions, et c'est ça qu'on veut essayer de déterminer.
Et pourquoi est-ce que ça fait ça crée cette controverse avec Leibniz, cette controverse épistolaire, hein, puisque les deux hommes ne se sont jamais rencontrés, mais d'un seul coup...
Alors, vous m'entendez là?
Oui,
c'est
oui,
bon.
Tout à fait. Tout
alors,
à fait.
La controverse éclate très très tard, juste vers la fin de la vie de Leibniz. Leibniz avait découvert quelque chose qui mathématiquement était équivalent. Alors, sur l'équivalence, on peut discuter longuement, mais bon, il y a quelque chose d'équivalent quelques années plus tard. Et il avait rendu public avant Newton. Et Newton, dans les Principia, fait une petite...
Alors, Newton, dans les Principia, c'est votre complété, Françoise Balibar. Faites une petite...
Une petite note.
Une petite note
dans laquelle il essaye de dire qu'il avait découvert les choses avant Leibniz, mais il n'insiste pas beaucoup et Leibniz ne réagit pas mal. Donc il y a des signaux et les choses éclatent très 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 tard. Quand Cayle, que c'est quelqu'un qui veut bien apparaître au lieu de Newton, que Newton est déjà désormais le patron de la science anglaise, écrit une note beaucoup plus explicite en accusant Leibniz de plagiat. Leibniz répond de manière vive en demandant à Cayle de s'excuser publiquement à la Royal Society. Et là, Newton, les choses sont étranges parce que les caractères de Newton auraient eu tendance à dire « Bon, laissons tomber, laissez-moi tranquille, je veux travailler. » Mais là, Newton, désormais, c'était un vieux homme, n'avait plus envie beaucoup, ni la capacité probablement de travailler scientifiquement. Il était beaucoup plus occupé de sauvegarder son image. Donc, Newton décide de réagir de manière vive à cette contre-réaction de Leibniz et écrase Leibniz. Leibniz est totalement écrasé dans cette controverse. Aussi parce que Leibniz a la mauvaise idée d'appeler la Royal Society comme juge de la question des priorités. Et la Royal Society est complètement contrôlée par Newton. Donc Leibniz pense d'être plus fort de ce qu'il est, en fait. Et ça, c'est un peu un point très triste pour la fin de la vie de Leibniz.
François Balibar ?
Oui, alors, ça c'était une première controverse. Il y en a eu une autre célèbre entre Newton et Leibniz, qui s'est faite d'ailleurs par personne interposée, c'est-à-dire par, d'une part, Leibniz, et d'autre part, un certain Clark, qui était un ami Newton et un propagandiste de ses vues théoriques. Elle concerne l'espace. Alors, de façon très étonnamment moderne, Leibniz pensait que l'espace n'est que l'ordre dans lequel l'ordre des choses. Et Newton, lui, chacun sait que il a commis ce magnifique péché contre la science qui était de supposer un espace absolu. Du moins, c'est apparu comme étant quelque chose qui allait contre le principe de relativité, contre tout et tout, comme un faux pas de Newton. Tout ça n'est pas si sûr. En fait, pour Newton, l'espace, le véritable espace, est un espace immobile. Alors, évidemment, c'est totalement contraire à l'idée de relativité. Et alors, Si on dit les choses vulgairement, c'est parce qu'il avait besoin de caser Dieu dans tout ça. Mmh. Et d'ailleurs, ils sont tous comme ça. Que ça soit Descartes, que ça soit Pascal, que ça soit, alors, Leibniz, c'est un peu particulier, mais que ça soit Newton, ils cherchent tous le moyen de faire une théorie de la nature dans lequel Dieu ne joue pas un rôle trop encombrant.
Mais néanmoins présent.
C'est le corps de Dieu.
Oui, c'est le sensorium Dei, c'est-à-dire que Dieu sent par l'espace. Bon, alors du coup, en plus, ça l'oblige à recentrer, parce qu'il y a un passage que l'historien des sciences souligne toujours, dans lequel il le dit dans les Principia qu'il y a un centre du monde. Alors tout ça, évidemment, pour des relativistes comme l'ont été les gens après, tout en péchant eux-mêmes contre le principe de relativité quand il le fallait, c'est absolument impardonnable. Mais la fin de l'affaire, c'est que Einstein, qu'on ne peut pas considérer comme un non-relativiste, a finalement dit, après la relativité générale, j'ai rétabli l'espace de Newton.
Dans les quelques minutes qui nous restent, c'est vrai qu'il faut redire brièvement que Newton était effectivement croyant, qu'il a écrit beaucoup de traités de théologie, un grand nombre, et qu'il avait aussi un intérêt, une curiosité pour l'ésotérisme, pour l'alchimie, pour l'hermétisme, Marco Panza.
Absolument. Je pense que cette transmission, c'est inversement proportionnel dans le temps que Newton a consacré à l'alchimie, à la théologie et à la science. Newton a consacré beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'écrits, beaucoup plus d'efforts à essayer de décrypter les écritures, à essayer d'interpréter les prophéties, à essayer de revenir dans la tradition de l'alchimie pour retrouver des traces d'une science originaire qu'il pensait que Dieu avait élargie à l'humanité au moment de la création. Ce qu'il appelait la prisca sapienza. D'ailleurs, il n'était pas le seul à penser les choses de cette manière. Et donc, Newton était vraiment, d'après moi, plutôt qu'un scientifique, un historien. Un historien qui pensait que regarder la nature, regarder le monde, c'était une autre manière pour retrouver la science véritable. Et l'autre manière, c'était regarder les livres. En particulier, les livres de l'écriture, les livres sacrés, mais pas seulement. Aussi, toute la tradition alchimique avait des traces, pouvait manifester des traces de cette science. Et les pages que Newton a consacrées à l'alchimie et à la théologie sont énormément supérieures aux pages qu'il a consacrées à la mathématique et à la physique, énormément supérieures.
En nombre ou en qualité ?
En nombre. Les études alchimiques de Newton sont surtout il cherche de retrouver des traces. Ce n'est pas vraiment, il n'a pas une pensée alchimique autonome. La théologie de Newton, c'est très intéressante. Il a une conception de l'Église qui ça serait bien qu'elle soit aussi considérée ou étudiée aujourd'hui, qu'il pense que l'idée fondamentale de l'autologie newtonienne, il était un antitrinitariste, etc. Mais ça, d'accord, on le sait. Mais il avait une idée plutôt plus forte, c'était que l'unité de l'Église devait se fonder sur l'idée que les dogmes étaient les minimums possibles. Et les dogmes fondamentaux, c'était les dogmes de l'amour de Dieu vers les hommes. Et que les restes, c'était pas vraiment venaient pas de Dieu ni du Christ. Par exemple, les dogmes de la Trinité venaient d'une Église qui voulait imposer son pouvoir et qu'il fallait essayer. On pouvait être trinitaire, on pouvait ne pas l'être. Surtout, il ne fallait pas en faire une condition nécessaire d'adhésion à l'Église. Ça, c'était l'idée. Donc, c'était une idée très libérale de la conception de l'Église. Et après, il avait cet énorme effort d'interprétation des prophéties, parce qu'il pensait que dans les prophéties, on retrouvait justement l'histoire tracée, l'histoire future de l'humanité, et pour la venue d'un nouveau Messie qui aurait pu réapporter la vérité, et que donc, en quelque sorte, cette étude était parallèle à l'étude scientifique, parce qu'elle nous permettait de retrouver ce qu'il voulait retrouver, la vérité, ce que Dieu avait élargi aux hommes au moment de la création.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle, merci à Marco Panza depuis Los Angeles.
Merci où
très
vous.
Tôt
merci
vous êtes levé aux horaires malgré les coupures et malgré le suspense induit qui a créé une sorte de tension dramatique dans cette émission qui était tout à fait appréciable. Pour aller un peu plus loin, on peut retrouver Newton aux éditions Les Belles Lettres, Newton et les origines de l'analyse aux éditions Albert Branchard de Marco Panza ou Einstein Newton Poincaré pour réinscrire Newton dans cette histoire des sciences, une histoire de principe. Coécrit avec Raffaella Toncelli aux éditions Belin de Françoise Balibar. Merci beaucoup à tous les deux. Et merci à toute l'équipe également de la méthode scientifique, Vétienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Mathieu Lefrançois, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Elisabeth Miro à la réalisation, Fabien Laléouze à la technique et Sophie Saliomari au droit d'auteur. Et demain, c'est notre vendredi science-fiction, un vendredi un peu spécial puisque nous ne nous projetterons pas dans le futur, cette fois avec une catastrophe imminente, mais dans un passé alternatif, une uchronie. Et si les dinosaures n'avaient pas été rayés de la carte par une chute de météorites, s'ils étaient restés l'espèce dominante, que se serait-il passé? Réponse demain à 16h. Tout de suite, quatrième et dernier épisode de LSD, la série documentaire consacrée à l'islam et à la psychanalyse par Perrine Cavran et Seam Ouattata. Nous, on se retrouve demain à 16h dans un monde de reptiles et de sauriens, jusqu'à preuve du contraire.